me fait penser à l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Et on parle de son entrée victorieuse. Et c'était intéressant parce que, évidemment, Jésus-Christ avait envoyé des disciples pour trouver une âme dans la ville, là où ils allaient se préparer également, près de lui, ils allaient se préparer pour ce repas avec ses disciples. Ils allaient trouver une âme et ils allaient apporter ça à Jésus-Christ pour qu'il se monte là-dessus, ça se dit bien, monte là-dessus pour entrer dans la ville. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans la ville de Jérusalem, il était félicité, Hosanna, je vais juste regarder pour ne pas me tromper, Hosanna au roi d'Israël, Hosanna dans les lieux très hauts. Il était accueilli comme le roi qu'il était. Évidemment, on sait que le peuple juif, il s'attendait à un roi terrestre, un leader terrestre qui allait les libérer de Rome. Évidemment, Jésus-Christ, il avait un plan beaucoup plus grand que seulement libérer de l'esclavage de Rome. C'était l'esclavage du péché, n'est-ce pas? C'était une libération éternelle. Alors, c'est l'âme qui nous fait penser à ça. Et même le peuple avait mis leur manteau dans la rue, ça montrait de l'honneur, du respect qu'ils montraient à Jésus-Christ. Ils ont placé leur manteau dans la rue devant l'âne lorsque ça passait, même des branches de palmiers qu'ils avaient découpées pour les mettre sur la route devant lorsque Jésus-Christ passait sur l'âne. Alors ça me fait penser à cette entrée victorieuse de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Mais à quel point ça a changé pas très longtemps après. Donc, merci beaucoup, Philippe. Désolé de me tromper de votre nom. Le numéro 3. Alors, est-ce que je peux te demander de ouvrir pour nous le numéro 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se trouve là-dedans?
De l'argent.
Est-ce que, combien de cents est-ce qu'on a là-dessus?
30.
30 cents, oui. Ah. La trahison de Jésus-Christ. Quel point ça donne à réfléchir, à quel point ça a changé cette entrée victorieuse dans Jérusalem, et pas très loin, pas très longtemps après. Évidemment, on connaît le récit biblique lorsque les leaders juifs voulaient se débarrasser de Jésus-Christ, et Judas était allé les voir pour leur en discuter, qu'il serait prêt à trahir Jésus-Christ. Et cette soirée-là, dans le jardin, Judas Iscariote avait dirigé une bande de soldats vers Jésus-Christ. Il l'avait trahi, et ça, c'était pour 30 pièces, je crois que ça indique 30 pièces d'argent. Quelle chose de réfléchir là-dessus. Et cet après-midi, j'ai tellement hâte. J'espère que vous êtes tous en mesure de rester pour la réunion cet après-midi parce que le pasteur Roy m'avait demandé expressément de continuer dans cette série qu'il fait dans Matthieu. Donc, on sera rendu dans Matthieu 27 et j'ai tellement hâte à ça parce qu'on va réfléchir sur cet homme, Judas Iscariote, juste pour vous donner une petite... comment est-ce qu'on dit?
Un aperçu
à ce qu'on va examiner cet après-midi. Mais à quel point Judas Iscariote, qui avait suivi Jésus-Christ pendant 2 ans, 3 ans, je m'excuse, il avait suivi Jésus-Christ, il a été enseigné par Jésus-Christ, il a été même comme nourri par Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ avait nourri la foule, probablement Judas était là aussi avec tous les autres disciples. Et ensuite, Judas l'avait trahi pour 30 pièces d'argent. Merci beaucoup. On va continuer le numéro 4, on va voir ce qui se trouve là-dedans.
Un clou.
On a un clou. Oui, évidemment, vous connaissez le récit et on va se rappeler de ça même vendredi, jusqu'à quelques jours avant sa mort, 3 jours avant sa mort, avant sa résurrection, je m'excuse, il était cloué à la croix de Calvaire. Et Jésus-Christ, ce n'est pas une question qu'il était comme seulement mis à mort, c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous. Et la Bible nous dit, même dans le jardin, lorsque lors de son arrestation, même Jésus-Christ, là, la Bible nous parle du fait qu'il aurait pu appeler des légions d'anges pour le sauver. Mais Jésus-Christ, il a prié. Seigneur, si, mon Père, si possible, laisse éloigner cette coupe de moi. Néanmoins, non pas ma volonté que la sienne s'accomplisse. Pas exactement comme ça, mais j'essaie de réfléchir comment ça se dit. Jésus-Christ s'est soumis à la volonté de son Père, même si ça incluait, si ça inclut de se donner sa vie dans la mort sur la croix de Calvaire pour nous. Alors, merci beaucoup. Maintenant, le numéro 5. Le numéro 5.
Une pierre.
Une pierre. Qu'est-ce que ça peut nous rappeler, cette pierre? Le tombeau. Oui, évidemment, après la mort de Jésus-Christ, son corps était soigneusement descendu de la croix et placé dans un tombeau. Et c'est le seul tombeau qui aurait pu être réutilisé. Parce que c'est le seul qui, juste 3 jours plus tard, on peut dire que c'était le seul que Jésus aurait pu dire, oh, on est juste ici pour une courte période de temps. Mais Jésus-Christ, son corps était soigneusement descendu pour être placé dans le tombeau avec la grosse pierre qui était roulée par-dessus, scellé même par le sceau pour comme de roi pour dire ah c'est moi qui avais autorisé ça, Pilate avait autorisé tout cela, mais Jésus-Christ n'est pas resté là. Mm-hmm. Merci beaucoup. On a notre dernière. Merci beaucoup.
Bonsoir. Oui, vite celui-là.
Mais pour ne pas détruire l'illustration, c'est vite. Et non, j'ai pas rien oublié là-dedans. C'est vite parce que le tombeau, vous rappelez-vous bien que 3 jours plus tard, le premier jour de la semaine, lorsque les disciples, même lorsque les dames sont allées au tombeau, au début, ils étaient attristés. Qu'est-ce qui se passe? Le tombeau est vide. Vous rappelez-vous bien Marie de Magdala qui avait posé la question à celui qu'elle pensait était le jardinier. Si tu avais déplacé le corps de Jésus, laisse-moi le savoir où tu l'avais déposé. Mais ce n'était pas ça, pas du tout. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est vivant. Quelle bénédiction! On sert le Seigneur du Seigneur, des Seigneurs, le Roi des Rois, qui est vivant. Il était mort, mais il est vivant. Amen. Merci beaucoup, merci pour tous les volontiers. Merci, c'est une bénédiction d'avoir votre aide. Alors, et lorsque je pensais à tout cela, quelque chose qui arrivait dans mon esprit, même lorsque je pensais à ça, c'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ. L'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de Dieu qui avait fait préparer cette façon de pouvoir avoir le salut de notre âme. La Bible parle du fait qu'on était ses ennemis. Mais Jésus-Christ est venu par obéissance à son Père céleste. Par amour, Dieu avait pour vous ce moyen de salut pour nous, même lorsqu'on était ses ennemis. Et c'est ce qu'on va examiner ce matin. Venez avec moi dans Jean chapitre 3 de nouveau, s'il vous plaît. On ne va pas prendre le temps pour lire tout le chapitre. On l'a déjà lu. Merci à notre frère Dave pour l'avoir lu tantôt. Jean 3, 16, ça résume bien, je dirais, tout le contenu de la parole de Dieu. Dès le début de la Bible jusqu'à la fin, ça montre clairement l'amour de Dieu pour un monde pécheur. Même dès Genèse, vous rappelez-vous bien que Dieu, dans son amour, même là, il avait la communion fraternelle avec Adam et Ève. Même lorsque Adam et Ève ont péché, lorsqu'ils avaient désobéi à Dieu, Dieu voulait leur pourvoir un moyen de salut, un moyen de rédemption. Et même tôt dans Genèse, même jusqu'après le premier péché, ça nous est donné son plan de rédemption en Jésus-Christ le Sauveur. Et même jusqu'à Apocalypse, jusqu'à la fin d'Apocalypse, et même lorsque le monde est dans Apocalypse, dans la tribulation, dans ce temps horrible de jugement de Dieu, lorsque la colère de Dieu est versée sur ceux qui l'haïssent, sur ceux qui le rejettent, même la Bible nous dit à quelle reprise par les témoins, par les témoins, par différentes choses que Dieu va utiliser dans le but pour démontrer sa miséricorde, sa grâce, pour pouvoir attirer le monde dans la repentance, à la rédemption. On a un cantique en anglais. Je crois qu'on a en français aussi « Oui, Jésus m'aime ». « Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. » Est-ce que vous connaissez ça? Oui. « Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. » En fait, on a cette place où la Bible nous le dit dans Jean chapitre 3. Ici, c'est très clair. Vous êtes déjà rendus, donc venez avec moi dans Jean 3 et suivez avec moi dans les versets 14 jusqu'à la fin du verset 18. La Bible nous dit dans Jean 3, 14 à 18, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il fut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Guide-nous, enseigne-nous dans ta parole, Seigneur. Aide-nous d'être des auditeurs attentifs, non pas des auditeurs oubliés. Ce matin, je te prie au nom de Jésus. Amen. La lettre d'amour de Dieu pour toute l'humanité. La lettre d'amour de Dieu pour toute l'humanité. C'est intéressant, il y avait quelqu'un dans le passé qui parlait de Jean 3:16 et appelait Jean 3:16 la petite Bible, ce qui signifie vraiment que ce verset résume bien le message de l'ensemble de la parole de Dieu. Certaines choses que je voudrais qu'on examine par rapport à ce beau verset, Jean 3, 16. La première chose que je voudrais qu'on puisse examiner ce matin, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour le plus profond et le plus vrai qui existe. Cette lettre, ça commence dans Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Quelque chose, je lisais à un moment donné, il y a plusieurs années, je crois que c'était tôt dans les années 1900, que cette petite note était placée dans un journal de Boston, au Massachusetts. Et ça lisait comme ça, « Mon cher garçon qui a quitté la maison lundi soir, si tu vois cette note, s'il vous plaît, laisse savoir à ta mère inquiète où tu es. » Le message était tout simplement signé « Ta mère ». C'est intéressant, cette mère était compatissante et elle tentait d'atteindre par son amour son fils errant pour le ramener à la maison. Mais l'amour de cette mère n'est qu'un très faible reflet de l'amour infini de Dieu pour un pécheur errant. Ce n'est pas surprenant que l'histoire d'amour trouvée dans la parole de Dieu, ça peut attendrir même le plus dur des cœurs. Ça peut les attirer, les pécheurs, à Dieu. Quelle merveilleuse chose que Dieu nous a aimés. Moi, une chose que j'aime faire lorsque je témoigne aux gens, j'aime commencer avec le fait que Dieu les aime. J'aime commencer en disant, je voulais juste que vous sachiez que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et oui, c'est vrai que Dieu est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui haït le péché. Mais en premier, j'aime que le monde sache que Dieu les a tant aimés. Dieu les a tant aimés. Une autre chose que ce verset nous montre également, c'est le fait que l'amour de Dieu lui a coûté cher. À un moment donné, on lisait dans notre culte en couple, dans un livre de dévotionnel pour les couples, ça parlait des jeunes amoureux. Et le jeune homme disait à cette jeune dame qu'il aimait beaucoup, il disait « Oh, je traverserai les plus grands océans pour toi. Mon amour est si grand pour toi, j'irai à travers le désert pour toi. Je serai là vendredi soir, mais si ça pleut, je ne serai pas là. » L'amour de Dieu lui a coûté cher. La Bible nous dit, ça continue dans Jean 3:16, qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Essentiellement, Jésus-Christ a pris sur lui-même les péchés du monde, afin que ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel acceptent son sacrifice expiatoire pour avoir la justice de Jésus-Christ placée sur leur compte devant Dieu. Tite chapitre 3 et les versets 5 à 7 nous disent « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Et Philippiens 3:9 nous dit d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Commençons même dans l'Ancien Testament, la Bible est très claire et ça nous parle de l'exigence de l'effusion de sang pour expier le péché comme paiement. Dans le premier livre de la Bible Genèse, on nous raconte que Dieu a fait des vêtements en peau d'agneau pour Adam et Ève après qu'ils ont commis le premier péché. Et cette nécessité de verser de sang d'un animal en expiation pour le péché a survécu jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Et même la première Pâque que les Israélites ont célébrée en Égypte, ça c'était venu à la suite d'une plaie que Dieu avait envoyée sur Pharaon pour le punir de la désobéissance. Mais Dieu avait dit aux Israélites de tuer un agneau, de mettre son sang sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte de la maison, là où ils allaient manger la viande pour être épargnés de la mort du premier-né. Exode 12:13 de parler de ça, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Hébreux 9:22 nous parle de ceci aussi, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » 1 Pierre 1, 18 et 19, ça nous dit « Ce n'est pas par des choses périssables, ça continue plus loin que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Juste deux autres versets à ce sujet. 1 Jean 1, 7 nous dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et Romains 5, 9 « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Oui, l'amour de Dieu lui a coûté cher, qu'il a donné son Fils unique. 3 jours après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité. Et présentement, la Bible nous dit qu'il intercède pour nous à côté de son Père. N'est-ce pas quelque chose de réconfortant de réfléchir là-dessus? Il intercède pour nous à côté de son Père. Et il veut que tout le monde l'accepte comme sauveur. Apocalypse 5, 9 nous parle de à quel point on va louer le Seigneur de ce qu'il a fait. Et il chantait un cantique nouveau. Ça me fait penser à Gabriel et Pascal, le ministère de Gabriel et Pascal et de Camille. Cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation.
Amen.
Non seulement l'amour de Dieu qui est l'amour le plus profond, le plus vrai qui existe, mais l'amour de Dieu lui a coûté cher. Et l'amour, ça coûte, n'est-ce pas? Ça coûte cher, n'est-ce pas? Le vrai amour, ça coûte cher. Mais ça continue dans Jean 3, 16, parce que ça continue avec une offre. Cette lettre d'amour nous contient une offre qui nous est offerte à tous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une lettre peut être importante ou non importante. Combien d'entre vous est-ce que vous recevez parfois des lettres qui sont non importantes? Et qu'est-ce que d'habitude, qu'est-ce que vous faites avec des telles lettres? Dans la poubelle, n'est-ce pas? Soigneusement, vous les... Non. Parfois, ça devient un petit peu tannant. Parfois, lorsqu'on reçoit des telles lettres, parce qu'on dit, encore une fois, une autre lettre de même, pourquoi je continue à recevoir ces choses? Ça ne m'intéresse pas tout, comme on dit dans le bon québécois, n'est-ce pas? Mais une lettre aussi, ça pourrait être une lettre importante aussi. Certaines lettres, oui, on reçoit qui ne sont pas importantes, mais d'autres peuvent être une question de quoi vraiment, vraiment importante. Et parfois, c'est une invitation peut-être à quelque chose d'important, peut-être une invitation à un mariage. Et lorsqu'on reçoit des telles choses, on dit, oh, c'est pas seulement une lettre générique. Générique, est-ce que ça se dit bien? Général. C'est une lettre qui est importante, c'est pour moi. À un moment donné, il y avait une lettre très importante qui a été envoyée à un homme du nom de George Wilson. George Wilson était condamné à la pendaison à Philadelphie en 1830 pour des crimes qu'il avait commis. Le président à ce moment-là des États-Unis s'appelait Andrew Jackson. Et Andrew Jackson, le président des États-Unis, avait envoyé une lettre à Wilson pour lui signifier son pardon. De cette façon, Mr. Wilson recouvrait ainsi la vie et échapperait à la mort. Cette lettre, en fait, c'était une question soit de vie ou de mort pour un homme qui était condamné. Dans un certain sens, la lettre qu'on trouve dans Jean chapitre 3 et le verset 16, c'est une lettre, vraiment c'est la lettre la plus importante, mais également c'est une lettre d'amour qui contient également une offre, soit de la vie ou de la mort, et ça pour l'éternité. Et votre réponse à cette lettre, en fait, ça détermine votre éternité. Lorsque votre vie ici-bas sur terre va se terminer et prendre sa fin sur l'éternité, où irez-vous? Où irez-vous? Cette lettre contient une offre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un autre sujet de cette lettre, c'est ça continue parce que cette lettre est adressée à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, quiconque. Ce qui est important d'une lettre, c'est le nom du destinataire. Je crois que c'est la bonne façon de dire celui à qui c'est écrit. Et probablement cela vous est déjà arrivé, peut-être de recevoir le courrier de quelqu'un d'autre. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Je me rappelle à un moment donné, on a reçu une lettre de quelqu'un d'autre qui restait jusqu'à une autre rue, pas très loin, juste l'autre rue comme à côté. Et je me rappelle, leur numéro de maison était pareil à la nôtre, mais c'était une autre rue. Alors j'ai pris la lettre et au lieu de le renvoyer dans la poste pour dire mauvaise adresse ou quelque chose comme ça, c'est pas moi, j'ai pensé, oh mais c'est pas très loin, je vais juste l'amener à cette personne. Je crois que c'était quelque chose d'important parce que c'était de Revenu Québec. Alors j'imagine qu'ils apprécieraient recevoir, surtout si ça dit, il vous faut payer ça, sinon des pénalités. Mais j'ai amené la lettre en main et j'ai cogné à la porte. J'ai dit, hey, madame, pour une raison ou une autre, peut-être une erreur, mais j'ai reçu votre courrier dans ma boîte et je reste sur l'autre rue. Et elle dit, oh, mais merci beaucoup, merci, c'est une lettre importante. Alors, mais quiconque, c'est la partie qui est importante, c'est le destinataire de la lettre. Et ce message ici dans Jean 3:16, ça dit que le destinataire, c'est quiconque. Dans un certain sens, on peut dire qu'il n'y a aucune incertitude au sujet de l'offre de Dieu. Le mot quiconque, si on peut dire, c'est aussi grand que le monde entier. Car lorsque le Seigneur a placé le mot, a dit le mot quiconque, ça comprend tous. C'est une lettre personnelle. Mais également, c'est une lettre également qui est personnelle, mais aussi qui est une lettre large, personnellement, on peut dire. Quelle bénédiction de pouvoir avoir la lettre qui est adressée à nous, personnellement. Cette lettre aussi, non seulement c'est une lettre qui est destinée à chacun d'entre nous individuellement, non seulement c'est une lettre qui contient une offre, mais évidemment, comme toute autre lettre qui contient une offre, cette lettre demande une réponse. Probablement, à un moment donné, vous avez reçu une invitation à quoi que ce soit. Peut-être à une fête d'anniversaire, peut-être à un mariage, une célébration de mariage. Et souvent, même en anglais, c'est marqué RSVP. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire?
Réservez,
s'il vous plaît. Et parfois, ça dit appelez ce numéro pour réserver ou écrivez-nous un courriel, etc. pour réserver. Mais cette lettre ici, dans Jean 3:16, ça demande une réponse. Et la Bible nous dit ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette lettre demande une réponse. Quiconque croit. La Bible est claire qu'on est tous pécheurs. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous offre son pardon à tous par son Fils Jésus-Christ. Et Romains, plus tard dans Romains 10, 9 à 10, nous parle de ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Moi, j'ai déjà demandé un volontaire. On a la famille Fortin ici avec nous de Trois-Rivières. Donc, moi, j'ai demandé à Louis de venir pour m'aider avec cette illustration. Parce qu'on va continuer l'histoire de George Wilson. Et assurez-vous, j'ai des clés. Je crois que c'est la bonne façon, des menottes, est-ce que c'est la bonne façon de dire? J'ai des vraies menottes ici, ce sont des vraies menottes. Je crois que ce sont des Smith & Wesson, si je ne me trompe pas. Donc, de bonne qualité. Donc, Louis, on va te faire menotter?
Tu menottes?
Ok, on va te menotter. Donc, tes mains, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit, j'ai des clés. Donc, on va vérifier que c'est assez serré. Et j'ai les bonnes clés. Donc, tu ne peux pas sortir, n'est-ce pas? Dans un certain sens, il est esclave au Ménot, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux tourner un petit peu vers tout le monde? Donc, il est esclave au Ménot. Mais savez-vous quoi? Il y a une façon dont il peut se faire libérer, n'est-ce pas? J'en ai la façon ici. Les clés. Mais je voudrais qu'on puisse considérer notre frère Louis comme George Wilson qui avait reçu une lettre de pardon, une offre de pardon du président Andrew Jackson en 1830. Quelque chose d'intéressant de considérer, évidemment, George Wilson a été condamné à la pendaison pour des crimes qu'il avait commis. George Wilson avait reçu cette offre de pardon lorsque le geôlier lui a présenté la lettre pour signifier qu'il pouvait avoir le pardon, qu'il ne devait pas aller à la pendaison. George Wilson avait rejeté l'offre. L'affaire a été portée devant la Cour suprême des États-Unis en 1830 et cette loi constituait un précédent. La décision de la Cour suprême se lisait comme suit. Le pardon est un document dont la valeur dépend de son acceptation par la personne impliquée. Il est à peine à supposer qu'un individu condamné à la mort refuserait un pardon. Mais si le pardon est refusé, il n'y a pas de pardon. George Wilson doit être pendu. George Wilson a refusé le pardon qui lui était offert. Il a refusé la vie. Et il a choisi la mort. Ici, dans notre texte, on a l'offre de la vie par la foi en Jésus-Christ. Moi, je ne connais pas tous les cœurs de ceux qui sont ici ce matin. Moi, j'espère que c'est le cas, que vous avez un témoignage de salut, que vous pouvez dire, hey, moi, j'ai déjà placé ma foi en Jésus-Christ. Mais peut-être ce n'est pas le cas pour vous ce matin. Savez-vous quoi? Si vous êtes ici ce matin et vous dites, moi, j'ai jamais accepté ce don gratuit de Dieu. J'ai jamais accepté ce cadeau, cette offre de vie éternelle dans la personne de Jésus-Christ. Si vous continuez à rejeter cette offre, vous êtes tout comme George Wilson qui a rejeté l'offre du pardon de Andrew Jackson. Mais encore pire, parce que pour George Wilson, c'était seulement une question devant Andrew Jackson de mort physique. Mais si vous continuez à rejeter Jésus-Christ pour être esclave au péché, à Satan, à une éternité éloignée de Dieu dans l'enfer, vous êtes tout comme George Wilson qui choisit de continuer à être esclave, en fait, qui refuse le pardon. Pour Andrew Jackson, le président, le pardon qu'il avait accordé à George Wilson, ce n'était qu'un petit peu d'encre et une feuille de papier. Le pardon accordé par Dieu aux pécheurs, on peut dire que c'était signé, on utilise parfois cette image, c'était signé avec le sang de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il offert ce pardon à nous qui étions ses ennemis? En fait, c'était à cause de son amour pour nous. Également pour, si on peut dire, pour toucher notre cœur pécheur par son grand amour. Dieu lui-même, dans la personne de son Fils Jésus-Christ, a souffert pour nous sur la croix de Calvaire. Et on ne connaît pas l'heure de notre mort, ni quand nous serons confrontés à l'éternité. Savez-vous quoi? Ça peut arriver tout de suite. Ça peut arriver même avant qu'on parte sur la route pour reprendre la route pour aller chez nous cet après-midi. 2 Corinthiens 6, 2 nous dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Si vous êtes en train de rejeter cette offre, puis-je vous demander pourquoi vous rejetez ce pardon qui vous est offert dans la personne de Jésus-Christ? Mais maintenant, pour ceux qui concernent nous qui sont déjà sauvés, évidemment par amour pour notre Sauveur Jésus-Christ, par obéissance à son mandat, comme il nous a laissé l'exemple ultime d'obéir à son Père Céleste, par amour pour les âmes perdues sans espoir, moi je vous encourage de faire preuve de vous laisser motiver par l'amour du Seigneur pour le monde, comme Jean 3,16 nous en parle de l'amour de Dieu pour nous. Paul exprime ce fait dans 2 Corinthiens 5, 14, car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. La Bible nous enseigne également de donner première place au Seigneur dans notre vie. Dans 1 Pierre 3, 15, la Bible nous dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Le Seigneur nous confie un ministère, on peut dire, de réconciliation, de partager au monde l'amour de Dieu et comment être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens parle de ce fait. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si vous êtes ici et vous dites, moi je suis toujours dans le rejet du pardon de Dieu, pourquoi pas demander à Dieu de vous pardonner. On a déjà lu, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tout sera sauvé. Crois au Seigneur, la Bible nous dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tout sera sauvé. Heureusement pour lui, j'ai des clés. Alors, je vais te libérer maintenant. Ok.
La moitié de fait.
On va acheter ça. Merci beaucoup, Louis. De nos jours, nous avons désespérément besoin du peuple de Dieu qui n'a pas honte pour leur Seigneur, mais qui avec audace va annoncer l'amour de Dieu en Jésus, au monde perdu. Romains 1, 16 nous dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis le Grec. Et Marc 16, 15 nous dit, puis leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, on a une lettre, la plus belle lettre d'amour de tout le temps. Mais qu'est-ce que vous en faites? Si vous êtes ici, vous dites, moi je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, il y a une réponse pour vous ici. Parce que si vous continuez à rejeter Jésus-Christ et rejeter son pardon, la Bible est claire, il y a un enfer. L'enfer est vrai. Mais moi, je voudrais pouvoir assuré de vous voir au ciel. Et c'est pour cette raison que la Bible nous donne cette offre dans Jean 3,16, dans cette lettre d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que vous avez fait de cette offre? Si vous avez déjà reçu et vous êtes ici et vous dites, oui, j'ai déjà reçu cette offre de pardon. Par la suite, qu'est-ce que vous en faites avec? Est-ce que vous êtes prêt à vous annoncer cette offre, ce pardon aux autres pour faire connaître cet amour au monde perdu? Je vous encourage, ne cachez pas pour vous-même, mais faites-le connaître autour de vous. On a besoin du peuple de Dieu, pas honte pour le Seigneur, mais qui avec audace va annoncer l'amour de Dieu en Jésus-Christ au monde perdu. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour pour nous. Merci pour cet si grand amour, Seigneur, qui t'a fait aller en obéissant jusqu'à la croix. Oh Seigneur, on te remercie pour ce pardon que tu nous offres, ce pardon qui est signé par le sang de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te demande s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, Seigneur, que ce soit aujourd'hui le jour qu'il accepte ton pardon, qu'il soit sauvé. Seigneur, également je prie pour ceux qui sont ici, qui sont sauvés, Seigneur. Ah Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, à être fidèles, Seigneur, à proclamer cet si grand amour, ce si grand salut à ceux qui nous entourent. Ah Seigneur, en quoi que le temps est court, Seigneur, ah Seigneur, on voudrait être trouvés fidèles. On voudrait être fidèles à la tâche que tu nous as confiée, afin qu'on puisse entendre bien, bon et fidèle, serviteur. Merci pour ce temps ensemble. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.